Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Here comes first down. Here it comes first down. Says Red Cashin.
Who do you blame the most for the Eagles' 10-point loss to the Giants? 72% coaching.
Head coach of the Eagles, Doug Peterson. Hi, Doug.
Good morning, Angelo. Thanks for the lead-in. I appreciate that.
I'm sorry. That was awesome.
I know. That just puts me in a great mood today. Already in a good mood. I appreciate it.
I kind of felt you probably wouldn't be in a good mood.
Can I hang up now?
No, please don't, Doug.
I'm feeling my obligation right now. If I hang up, I feel my obligation.
Doug, I fully understand.
I'm pissed off, Angelo.
All right, what about Doug?
I'm pissed off. I'm pissed off at myself. I'm pissed off at the way we played. And it's just, it frustrates me. It frustrates me to no end.
On est de retour à la zone payante. Jean, au premier essai, là, j'aimerais ça que tu me parles de ce qu'on vient d'entendre. C'est Doug Peterson qui est en entrevue à la radio de Philadelphie après le match. Rien ne va plus, la Philadelphie, là. Peterson n'est plus du monde. Même des joueurs commencent à dire que Carson Wentz, il pratique tout croche. Y a-t-il quelque chose encore qui peut remettre les Eagles sur le droit chemin et en gardant en tête qu'ils sont toujours premiers au classement dans leur division?
C'est sûr que je comprends Doug Peterson parce que je serais furieux également de la façon que les Eagles sont sortis contre les Giants.
Mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on a entendu dans l'extrait avec Doug Peterson, l'animateur de radio?
Ben écoute, l'animateur de radio, évidemment, ça commence pas très bien pour Doug Peterson parce qu'en partant, ils disent qu'ils ont fait un sondage puis 72% des gens blâment l'entraîneur-chef pour ce qui s'est passé pour la saison et pour le match contre les Giants. Fait qu'évidemment, Doug Peterson, ça l'a pas mis nécessairement de bonne humeur et par la suite, ben écoute, il a mentionné à plusieurs reprises qu'il est pas content de la situation, qu'il est furieux, qu'il est « pissed off ». En bon français. Donc, puis il a dit que c'est un problème qui est global présentement avec les Eagles. Puis ça, je suis d'accord avec lui. C'est pas un seul joueur qui joue pas ou qui fait pas le boulot présentement. Tout le monde chez les Eagles doivent se regarder dans le miroir parce qu'ils font vraiment pas le boulot, y compris l'entraîneur Doug Peterson. Parce que Doug Peterson, pour moi, présentement, il prépare vraiment pas bien sa formation. Je regardais un petit peu le match contre les Eagles. Contre les Giants. Les Giants, c'est la 26e formation de la NFL pour défendre le carrière quand il sort de la pochette. Il a fallu attendre au troisième quart pour voir Carson Wentz sortir de la pochette. Ils ont fait deux jeux. Ils ont eu deux jeux positifs de 14 puis 25 verges. Puis on n'a pas revu Monsieur Wentz hors de la pochette pour le reste de la rencontre. Pourquoi? C'est quoi ça? Tactiquement, il faut que tu m'expliques ça, là. C'est horrible. Le but, je pense, au football, c'est d'exploiter les faiblesses de ton adversaire. Tu commençais à exploiter les faiblesses, t'arrêtes. Écoute, les Giants, c'est une autre formation de la NFL. Ils n'ont pas besoin d'aide. Je pense que tu peux les exploiter. Puis tant et aussi longtemps qu'ils ne défendent pas correctement, ben tu continues d'exploiter cette faiblesse-là. Ils l'ont pas fait. Il y a beaucoup de choses aussi que moi je trouve présentement qui fait défaut avec les Eagles. L'utilisation de Jalen Hurts, pour moi, ne fait pas de sens présentement. Quand ils amènent Jalen Hurts dans la formation, c'est souvent évidemment en formation de Wildcat.
C'est leur jeune carrière qu'ils ont recruté cette année au
repêchage. Exactement, celui des Sooners d'Oklahoma. Mais ils n'ont aucun succès dans cette formation-là. Absolument aucun. Donc, à un moment donné, arrête là. Garde les choses que tu fais de bien. Ça, présentement, tu le fais vraiment pas bien. Arrête ça immédiatement. Y aller systématiquement, je sais que c'est un fan de statistiques avancées, puis il a gagné une partie du Super Bowl de cette façon-là en étant super agressif. Mais quand tu rates énormément de transformation de deux points, ça aussi, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça, d'y aller systématiquement à chaque fois pour deux points. Moi, je suis pas convaincu de la tactique. Donc, c'est un peu tout le monde qui doit se regarder dans le miroir. Puis évidemment, on a parlé. Monsieur Wentz comme corps arrière, là, énormément de revirements. Il y a beaucoup de difficultés ces temps-ci. Puis au début, on pouvait dire qu'il n'y avait pas d'outils. Mais tranquillement, ces outils reviennent. Il y en a un de plus avec Alshon Jeffrey. Il n'a pas joué beaucoup parce qu'il y avait un nombre limité de jeux face aux Giants. Mais ça aussi, ça va être une belle grande cible pour lui qui va pouvoir exploiter de nouveau. À un moment donné, il va falloir qu'il commence à livrer la marchandise. Puis, on va se le dire aussi, Carson Wentz, il a un énorme contrat. Il va falloir qu'il commence à jouer à la mesure de son contrat, là.
Hey, puis ils sont chanceux d'être en pandémie, les Eagles, parce que sinon, il y aurait du monde dans les estrades, puis on sait que les partisans de...
c'est un très bon point. Écoute, faut jamais sous-estimer une foule qui a déjà lancé des boules de neige sur le Père Noël. Là.
Exact. Non, ça serait pas chic à Philadelphie. Oh, c'est un très bon point, honnêtement. La foule serait hostile envers son équipe. Eux autres, une fiche de 3-5-1 là, pour être premier de division. Je pense qu'ils l'ont loin le premier rang, les gens de Philadelphie en ce moment. Là. Il n'y a juste pas de fierté par rapport à leur club. C'est une équipe qui joue pas bien dans plusieurs facettes. On parle du coaching staff, mais on parle de Wentz aussi. La défensive est pas au niveau. C'est pas la défensive affamée là, qu'on a vue de l'année du Super Bowl. Rappelez-vous de la ligne défensive dont on louangeait la profondeur et la productivité. On n'est plus nécessairement là en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup de lacunes soudainement dans cette équipe-là. Puis c'est dur à croire qu'ils sont pas capables de battre des clubs de leur propre division la plus triste de tous les temps. Il y a des choses que je m'explique encore très mal du côté des Eagles.
Mais il y a non,
peut-être un dernier point aussi. L'année du Super Bowl, on sentait que c'était une formation qui était très unie. La chimie semblait vraiment au rendez-vous. Tout le monde avait l'air de s'apprécier dans la formation. Ça n'a pas l'air d'un club présentement qui ont un seul objectif là, de gagner. On dirait
tout le monde a un poignard dans les mains.
Ouais, exact. Tout le monde, on dirait un éparpillement d'individus qui sont obligés de jouer ensemble. Puis ça, je pense que ça se reflète sur le terrain présentement.
OK, merci les gars. Deuxième essai. Là, on s'en va dans l'Ouest. Je sais pas pour vous, mais on dirait que c'est l'histoire qui se répète là. Après 8 semaines, on donnait le MVP à Russell Wilson. Et là, les Seahawks, on se demande s'ils vont être dans la série. Qu'est-ce qui se passe à Seattle, Steph?
Ah, encore des problèmes. On est tout le temps dans les problèmes. Qu'est-ce qui va pas? Écoute, les Seahawks, si les séries débutaient aujourd'hui, là, ils s'accrochent au 7e et dernier billet disponible dans la NFC. On s'attendait pas à ça. Là. Il y a 2 semaines de ça, on les voyait encore comme des aspirants totalement sérieux, puis il faut pas non plus...
Mais quoi que les gars, vous m'avez toujours dit, ouais. La défensive des Seahawks, c'est ouais. Désastreux. Là.
T'sais, faut pas les voir soudainement comme une mauvaise équipe, mais il y a toujours eu ce danger-là qui les guettait, c'est-à-dire les Seahawks vont aller où Russell Wilson va les mener. Puis là, le syndrome du super-héros est de plus en plus présent, au sens où Wilson, je pense qu'il constate de plus en plus que les matchs dépendent de lui. T'as les 2 porteurs de ballon principaux, là, Chris Carson, Carlos Hyde, qui sont blessés. Il y a 2 des 3 défaites de l'équipe qui sont survenues quand même quand l'équipe a marqué 34 points. T'es pas supposé perdre ces matchs-là. Donc, Russell Wilson se dit, écoute, faut que je fasse tout. C'est à moi que ça revient. Jusqu'à un certain point, ça peut aller. Mais là, dernièrement, là, dans le match contre les Rams en fin de semaine, franchement, il y a un jeu, moi, qui m'a marqué. On le voit, il sort un peu de sa pochette, il sort vers la droite, puis là, il y a un champ libre devant lui. Il peut s'en aller à la course, là. Il gagne facilement 10, 15, 20 verges. Il a préféré tenter une passe à contre-courant de l'autre côté complètement du terrain, une passe qui a été évidemment interceptée dans la zone des buts. Tu sais, c'est une chose qu'on apprend rapidement au corps arrière à pas lancer comme ça à contre-courant là, lorsqu'ils sont dans un élan de course. Ça donne pas de bons résultats, évidemment. Puis Wilson, ben c'est ça, il force beaucoup le jeu là, dernièrement par rapport au début de l'année où tout allait comme sur des roulettes. Parce que, comme je l'expliquais, on a l'impression que les Seahawks, ça tient surtout à lui. Tu sais, il y a la ligne offensive autour de lui aussi. On parle des 7 revirements de Wilson en 2 matchs. On a raison d'en parler, là. C'est pas beau. Mais il a été victime de 11 sacs du corps aussi dans ces 2 derniers matchs-là. Donc, la ligne offensive s'écroule. Il n'y a plus de jeu au sol menaçant. À l'attaque, il sent qu'il doit tout porter. La défensive qui tient pas le coup. Tu sais, c'est une défensive qui a vraiment, on le dit depuis le début de l'année, 0 pass rush, donc aucune habileté à appliquer la pression sur les corps arrière adverses. Donc, on se rabat beaucoup là sur, on n'est pas capable d'appliquer la pression avec la ligne défensive seulement. Donc, on amène souvent un cinquième homme, un sixième homme pour tenter le blitz. C'est souvent Jamal Adams. Donc, il est plus là dans la tertiaire là pour essayer de défendre la passe. Il est efficace. Il y a deux sacs en fin de semaine.
Mais il est efficace en fin de semaine. Mais est-ce que vous avez vu le jeu où il a laissé rentrer un joueur d'équipe adverse dans la zone des buts sans réagir? On a eu l'impression qu'après ça, son entraîneur est allé le voir. Ouais. C'est comme si sont fatigués aussi la défensive des Seahawks. À la force de donner 400 verges à tous les matchs, là, ça veut dire que tu es souvent sur le terrain.
Ils se posent des questions, ils savent plus nécessairement. Tu sais, Adam, c'est pas du tout le rôle là, qu'on lui demandait à New York. Sûr. Faut peut-être encore donner du temps à cette défensive-là, pas pour s'établir soudainement comme une défensive d'élite, mais je suis convaincu qu'ils peuvent faire mieux. On l'a vu, ça a déjà été quand même un peu plus prometteur face aux Rams malgré la défaite. Là, c'est l'attaque qui a vraiment été au neutre. Mais franchement, Russell Wilson, en ce moment, en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur son plateau. Ça explique peut-être un peu les contre-performances qu'il a connues.
OK, ben les gars, je veux faire du pouce. On s'en va au troisième essai de notre match. Puis dans le troisième essai, là, on se fait du fun un peu. Là, on regarde les fiches des équipes, puis entre autres, celles des Seahawks qui sont 6-3, mais des équipes à 6-3, puis à 5-5, à 4-5, il y en a un paquet cette année, tellement que il y a 24 équipes qui sont encore dans la course pour les séries. L'année passée, je regardais à pareille date, là, il y en avait à peine une vingtaine. C'est quand même beaucoup, là, 4 équipes de plus. Qu'est-ce qui explique ça? Y a-tu des meilleures équipes? Y a-tu des meilleurs corps arrière dans les équipes? Y a-tu comme plus de parité grâce au plafond salarial? Je cherche des réponses, puis je suis sûr que vous allez m'en donner.
Ben, moi, un des points importants pour expliquer un peu la parité, c'est qu'il y a, quand même deux places de séries éliminatoires additionnelles. Donc, c'est sûr que ça donne plus d'espoir aux équipes qui étaient en milieu de peloton, qui auraient peut-être abandonné la course un peu plus rapidement que d'habitude. Ben là, évidemment, quand tu as une place qui est disponible, que tu sais que tu peux atteindre, puis que c'est pas terminé, même si tu as peut-être un mauvais début de saison, style Vikings du Minnesota, ouais. Ben écoute, ça te donne de l'espoir beaucoup plus qu'avant. Ça, pour moi, c'est évident. Pour le reste, moi, je pense que t'as touché un bon point, Jean-Nicolas. C'est sur les corps arrière. La qualité de corps arrière ne fait que s'améliorer présentement dans la NFL. Tout le monde a à peu près un bon corps arrière. Et ça, pour moi, c'est sûr que ça aide à avoir de la parité dans cette ligue-là. C'est d'une évidence. Écoute, il n'y a rien de plus évident que ça.
Hey, tu parles des corps arrière, tu sais. Parce que tu as amené l'exemple des Vikings qui connaissaient un début de campagne atroce, une victoire sans défaite là, depuis son...
Moi, je les avais complètement sortis des séries éliminatoires.
Moi, je peux te le dire. Puis c'est pareil ici. Un corps arrière comme Kirk Cousins, il y a, je sais pas moi, 15 ans, il aurait été assurément là, dans le top 10, 12 de la NFL. Aujourd'hui, tu regardes ça, il est même pas considéré dans le premier tiers. T'sais. Il est probablement... milieu de peloton ou même plus bas que ça actuellement dans la NFL. Là. Écoute, ça s'est amélioré partout. C'est vraiment frappant. Puis ce que ça donne, ben, c'est beaucoup d'équipes qui en profitent, qui génèrent des points, des victoires. Tu as 15 équipes en ce moment qui ont au moins 6 victoires. J'ai fait une petite recherche parce que je me disais, il me semble que c'est beaucoup. Tu sais, ça m'a comme frappé. Puis effectivement... Après 10 semaines d'activité, ça s'est jamais vu 15 équipes qui ont au moins 6 victoires. Les seules fois dans l'histoire auparavant qu'il y avait 14 équipes, et non 15, mais 14 qui avaient 6 victoires après 10 semaines, faut remonter à 1984 et 1986. Donc, c'est pas une hallucination. Il y a une grosse parité au sommet de la NFL. Qui ont des chances. Puis c'est pour ça aussi qu'en même temps, le portrait est très embrouillé actuellement. Là. C'est dur de dire, OK, ça va être les Buccaneers, les Packers, les Seahawks, les Rams, les Cardinals qui vont passer à travers le lot là, dans la conférence nationale. C'est vraiment pas évident au stade où on en est.
OK, et merci. Vas-y.
Il y a également un renversement. On en avait parlé un peu, mais tu sais, dans la AFC, Il y a plus d'équipes dans le positif là, que quand tu regardes la NFC. Là, présentement, demain matin, les playoffs, les séries éliminatoires commencent. Puis il y a des sacrées bonnes équipes qui ont des solides fiches, qui sont out des séries. Les Browns seraient à l'extérieur présentement des séries éliminatoires. Et les Titans de Tennessee, les deux équipes ont 6 victoires, 3 défaites. On va dire 6 victoires, 3 défaites, puis t'es out des séries. La pilule serait assez difficile à avaler, spécialement, je pense, à Cleveland. S'ils font pas les séries avec une fiche de 10-6, ils pourraient avoir le chaos dans la ville.
Ça, c'est la dernière fois, je pense, qu'une équipe n'a pas fait les séries à 11-5. C'était les Pats en 2008.
Oui, avec la blessure de Tom Brady. Je suis absolument d'accord avec
Matt,
toi.
Matt Castle, messieurs.
Exact.
Hey, puis ce qui est la beauté de la chose, là, c'est qu'en fin de semaine, on va être gâtés. On parle des grosses équipes. Il y a 5 matchs la semaine 11 qui vont opposer des équipes qui comptent au moins 6 victoires. C'est-tu pas assez beau, là? J'ai déjà hâte d'en parler tantôt.
Ouais, on va avoir de la difficulté à choisir cette semaine. OK, bon, ben, restez là. On va y aller tantôt aux prédictions, mais avant ça, on va y aller pour notre 4e essai. Les questions en rafale. On a des pas mal bonnes cette semaine. Entre autres, qui va finir par battre les Steelers? Restez là.